With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Premier poteau. Intervention Matic. Oh non,
exceptionnel placement de Tudy. C'est le début de l'année. Oh Michel Thaire.
C'est pas possible, c'est un fou. C'est un fou.
C'était un soir de 2016, un match entre la France et la Serbie. Blaise Matuidi marque un but de fou, de l'extérieur de la surface en reprise de volée. Peut-être bien l'un des plus beaux buts de sa longue carrière en bleu. Vous avez sans doute gardé comme moi, si vous vous intéressez un peu au football, l'image d'un joueur élégant, infatigable, un énorme sourire communicatif sur le visage et une soif de gagner. Mais connaissez-vous la face cachée de l'ex-joueur du PSG et de la Juventus? J'ai nommé Blaise l'entrepreneur.
Champion du monde!
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Pendant quelques jours, La Story se met en mode VivaTech avec une série d'épisodes pour évoquer la santé de la French Tech, mais aussi le défi de l'inclusion dans un secteur économique qui peine encore à s'ouvrir aux femmes et aux minorités. Et dans cet avant-dernier épisode de la série, on va s'intéresser aux footballeurs qui misent sur le numérique. Il y a un autre point commun entre Antoine Griezmann et Blaise Matuidi, pas seulement parce que cette chanson rappelle de bons souvenirs à quelques mois de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Leur point commun, c'est une même attractivité pour les nouvelles technologies. Je vous avais déjà parlé de l'intérêt du joueur de l'Atlético Madrid pour les NFT et le projet du français Sorare, devenu licorne en 2021. Blaise Matuidi n'est pas en reste. Le milieu de terrain qui a signé il y a 2 ans à l'Inter de Miami aux États-Unis où il vit, vient de lancer un fonds d'investissement Origins, un fonds tech à vocation grand public. J'ai eu envie de discuter avec lui et avec l'un de ses associés et j'ai demandé à mon agent Adrien Lelièvre s'il pouvait me mettre en contact avec eux. La rencontre s'est faite par téléphone. Ah oui, c'est bien son téléphone. Bonjour Blaise Matuidi.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation de La Story des Échos pour parler de votre seconde vie, votre vie d'investisseur. Vous n'êtes pas venu seul puisque nous avons au téléphone l'un de vos associés, Ilan Abeacera. Bonjour Ilan.
Bonjour.
Vous êtes le cofondateur et le dirigeant de Dots, c'est une start-up. Alors d'abord Ilan, racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés.
C'était une rencontre qui arrivait dans le cadre d'une start-up à laquelle je parlais, qui demandait des conseils sur un lancement aux US. Et puis Blaise, ayant investi dans cette start-up donc, qui s'appelle Slatch, avait participé à ce Zoom. Et ensuite, on est resté en contact. Moi, j'avais un podcast que j'animais. J'avais envie d'interviewer Blaise sur ce podcast. Et puis de là, on a commencé à échanger régulièrement sur des startups, sur la tech. Et puis un jour est arrivée l'idée d'Origins. Et puis on en a parlé tout de suite, très rapidement ensemble, et décidé de monter ce projet ensuite avec d'autres qui nous ont rejoints. Mais voilà, ça s'est fait autour d'une start-up.
Blaise, en matière d'investissement, le feeling, la première impression, c'est important?
Oui, bien sûr, c'est très important. Et c'est vrai que j'ai senti auprès d'Ilan quelqu'un qui a énormément d'expérience et surtout qui a les pieds sur terre. Je pense que dans la finance, c'est comme dans la vie, je pense, il faut aussi regarder les hommes. Et à ce niveau-là, je pense que tout de suite, le feeling est passé. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, moi, personnellement, pour mes premiers investissements que j'ai eu auparavant. Et puis, par la suite, pour monter ce fonds, c'était plus facile, bien sûr.
Comment est-ce que vous êtes devenu ce qu'on appelle un business angel?
Moi, j'ai découvert, je ne sais pas si on peut dire sur le tard, mais je me suis intéressé aux startups lorsque j'étais à la Juventus de Turin. Il y a eu bien évidemment Slatch, cette première start-up qui m'a donné envie justement de m'intéresser à ce monde-là. Et par la suite, j'ai continué et j'ai eu la chance de connaître Ilan. Et voilà, c'est une passion, c'est quelque chose qui m'anime. Aujourd'hui, je vois des similitudes entre le sport et le monde de l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'anime actuellement.
Ouais, avec Ilan et d'autres associés, dont un autre footballeur, Johan Benalouane, qui est un ami d'enfance, vous avez donc lancé Origins, qui est un fonds d'investissement. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'idée à l'acte ?
À force de discuter justement avec Ilan, puis Salomon et Johan, on a pu échanger aussi avec d'autres collègues sportifs et Ilan aussi avec des collègues d'entrepreneuriat. Et je pense que plus les discussions allaient, et puis on se disait que c'était possible et qu'on sentait qu'il y avait de l'intérêt, il y avait une curiosité et cette envie justement de s'investir, de se dire que on peut devenir des leaders à notre échelle. Et c'est ce qui nous a poussé à nous tous de continuer l'aventure et de créer quelque chose d'innovant et surtout quelque chose qui risque de pérenniser dans le temps.
Ilan, ça a tout de suite fait tilt chez vous quand il vous en a parlé ?
Non, en fait, on en a parlé parce que quand on prend un peu de recul sur le monde du VC et le monde de l'investissement en start-up, en fait, il y a deux choses qui nous ont sauté aux yeux. La première, c'est que aujourd'hui, un fonds d'investissement, il apporte quasiment, entre guillemets, que de l'argent à une start-up. Et aujourd'hui, l'argent, il y en a tellement dans la tech que c'est très difficile pour un bon entrepreneur de choisir entre deux fonds différents qui lui proposent le même montant d'argent. Ça, c'était la première chose qu'on a réalisée. Et la deuxième chose, c'est que les footballeurs européens, en particulier, mais on peut parler des athlètes en général en Europe, ont des réseaux sociaux gigantesques, ont une influence qui est unique au monde. Et en fait, ils ne l'amortissent pas, entre guillemets, dans le monde du business. C'est-à-dire, à part faire des campagnes de temps en temps pour des marques, il n'y a pas vraiment de relation entre les deux. Et quand on a réalisé ces deux choses-là avec Blaise, on s'est dit, en fait, faut essayer d'apporter quelque chose de nouveau aux entrepreneurs en plus de l'argent, qui est finalement de l'influence, du marketing, de la communication. Et si on arrive à convaincre les grands joueurs de foot de nous rejoindre en tant qu'investisseurs chez Origins, on va leur demander de nous ouvrir leurs réseaux sociaux pour parler de ces boîtes-là. Et en fait, c'est ça qui est unique et c'est ça qui a mis tout le monde d'accord très très rapidement.
Mais j'imagine qu'avec Blaise, c'est pas seulement son nom et ses réseaux qui vous intéressent. Le feeling, il est passé autrement.
Le feeling, c'est évident qu'il est passé. Blaise le disait tout à l'heure, mais je pense qu'on a noué une relation qui est aujourd'hui une relation qui est très sincère et qui va au-delà du professionnel. Blaise et moi, on a tous les deux 4 enfants. On a plein de points communs, en fait. Je joue moins bien au foot que Blaise, mais à part ça, on a plein de choses qui nous animent, qui sont communes. Donc ça, c'est inévident. Je pense qu'on peut s'associer avec personne s'il n'y a pas de connexion personnelle. Ça, c'est évident. Mais en dehors de ça, en fait, aujourd'hui, Blaise est devenu un businessman. Il est arrivé aux États-Unis il y a un petit moment maintenant. Et il a très vite adopté la mentalité. Et c'est ce qui fait qu'on a une envie commune avec une complémentarité qui est de, moi, amener mon expertise pour regarder, en gros, les belles startups. Et puis maintenant, on a une équipe avec nous. On a Salomon, on a Lara, etc. Donc, on passe beaucoup de temps là-dessus. Et Blaise nous amène son expertise de communicant, de personne avec beaucoup d'influence, pour comprendre ce qui intéresse, en fait, ces sportifs, ces athlètes. Et c'est par ce prisme-là qu'on investit dans les startups dans lesquelles on investit.
Oui, Blaise, vous le disiez, il y a des similarités, des points communs finalement entre ces deux mondes.
Oui, exactement, il y a des points communs. Je pense notamment au don de soi, au sacrifice, à cette envie de gagner, d'être un leader. Je pense que c'est des similitudes que l'on retrouve dans le sport comme dans le monde de l'entrepreneuriat.
Et j'ai lu d'ailleurs avec intérêt une phrase d'une interview de Mathieu Flamini dans les Échos Week-end où il parle de son parcours d'entrepreneur. Alors voilà ce qu'il dit. J'ai eu la chance de faire une carrière plutôt longue à l'OM, Arsenal, à Milan, mais pendant 15 ans, il n'y a pas eu un jour où je me suis réveillé sans douleur physique ou mentale. C'était une bonne préparation à la vie de start-upper. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ouais, c'est vrai que parfois on a souvent des maux de tête, on va dire, et aussi physiques. Je pense que ça fait partie aussi de l'enjeu. On va dire souvent on est amené à avoir aussi un peu de stress et c'est normal. C'est le lot des personnes qui ont envie de maximiser, on va dire, tout ce qu'ils font dans leur quotidien. Et je pense que ça, c'est ce qui m'a animé, on va dire, tout au long de ma carrière et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. J'ai cette envie de toujours réussir, de toujours faire mieux que les autres aussi. Il y a cet esprit de compétition aussi qui rentre en jeu et c'est agréable. Moi, j'aime ce genre de défi. Et voilà, c'est sûr que c'est dans un autre cadre aujourd'hui, mais pour moi, il y a beaucoup de choses similaires.
Ouais, Blaise, je vous demande pas si vous connaissez l'air de ramener la coupe à la maison de VG Dream. On vient d'entendre le moment où on parle de vous. Avec vous, on est serein. C'est aussi ce que vous apportez à vos partenaires dans le monde des affaires?
J'essaie d'être l'exemple, mais pas seulement mes partenaires, mais aussi pour cette nouvelle génération qui arrive. On voit qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'intéresser aussi. J'ai pu voir récemment Paul Pogba, Kylian Mbappé aussi, sortir un peu de leur quotidien et prendre la casquette de l'entrepreneuriat. C'est ça que je souhaite. Ça a été mon rêve. J'en ai parlé souvent avec Paul aussi. Et c'est de se dire, ben voilà, aujourd'hui, nous, on a pris les devants et on a su aussi transmettre aux plus jeunes. Et à travers, justement, ce que l'on met en place, voilà, je pense que c'est des choses qui peuvent être intéressantes pour les plus jeunes, avoir cette conscience que le football, c'est pas une fin en soi et que derrière, il y a aussi une vie. Et si on peut, justement, faire de bonnes choses comme on est en train de faire aujourd'hui à travers le fond, et qu'on puisse aussi se servir de notre aura, ça c'est quelque chose que l'on a en plus et il faut en profiter.
Ouais, Hylène, je voulais rebondir sur un mot que vous avez eu. Vous dites c'est un entrepreneur, il a la bosse des affaires.
Ah ouais, je suis agréablement surpris en fait de l'intuition que Blaise a sur des business, sur des startups qui démarrent, sur des projets, sur des marchés. Et même sur des gens. Et Blaise fait plein de choses. Et depuis plusieurs années, il est intéressé par le business déjà. Et c'est pour ça, je pense, qu'il s'est vite intégré aux États-Unis. C'est pour ça qu'il a fait très vite des rencontres avec des Américains qui lui ont proposé des projets. Il a investi dans des boîtes américaines aussi. Donc, c'est pas que lié à son identité française ou à la France. Donc ouais, non, carrément, Blaise a une superbe intuition là-dessus, business.
Dans quel domaine le fonds compte-t-il investir, Ilan?
Alors, on investit dans des projets qu'on appelle consumer en anglais, donc des boîtes de tech grand public, donc qui ont des produits qui s'adressent vraiment à la masse. Quand on voit les premières boîtes dans lesquelles on a investi, il y a plusieurs exemples différents. Ça peut être dans le monde du Web3, des métaverses, des NFT. Donc là, on a investi par exemple dans une boîte qui s'appelle Stadium Live aux États-Unis, qui est une espèce de métaverse dans le monde du sport pour les jeunes. Produit très compliqué à catégoriser puisque c'est des usages un peu nouveaux, mais voilà, pour des gens qui utilisent Snapchat mais qui ont envie de parler du sport en live avec un match qui est en train de se produire. Donc ça, c'est un exemple très grand public. Une autre boîte qui s'appelle Upway, qui est une marketplace de vélos électriques reconditionnés, qui est en Europe et qui va bientôt se lancer aux États-Unis. Ou un autre produit qui s'appelle MocaCare, qui est dans le monde de la santé mentale, qui est un marché qui nous intéresse beaucoup et on pense que les sportifs ont beaucoup à apporter à ce genre de boîte. Donc voilà, ça peut être très varié aux États-Unis et en Europe, mais toujours qui s'adresse au grand public.
Mais d'ailleurs, Blaise, Antoine Griezmann, il a aussi investi dans MocaCare. On retrouve souvent son nom d'ailleurs aux côtés du vôtre quand on parle d'investissement. C'est quel type d'investisseur, Antoine? Il est comme vous?
Ouais, il est quelqu'un de très intelligent, qui a la tête sur les épaules et qui sait aussi entreprendre. Donc voilà, il a eu le bonheur et la chance d'investir assez tôt à Sorar. Je pense que ça, c'est un bel exemple et je pense que par la suite, il a continué. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément et qui sait aussi se servir de son aura. Donc ça en fait de lui un bon entrepreneur pour le moment. Hein. J'espère que ça va continuer. Hein. En tout cas, c'est agréable de voir des personnes comme lui voilà, s'intéresser au monde de l'entrepreneuriat, avoir conscience que la vie, c'est pas juste taper dans un ballon.
Tape, tape, tape dans le ballon, tape dans le ballon, tout rond, tout rond. Tape, tape, tape dans le ballon, tape dans le ballon, tout rond.
La tech est en ébullition depuis le début de l'année. On voit que les valorisations chutent, notamment à Wall Street. La hausse des taux de la Fed, l'inflation contribue à dégonfler aujourd'hui cette bulle, y compris sur de non-cotés. Est-ce que vous n'avez pas eu de mal à lever des fonds dans ces conditions?
Nous, on a eu la chance de lever ce fonds avant tout ça. Donc, nous, on a levé le fonds Origins entre l'été 2021 et tout début 2022. Donc ça fait un petit moment déjà. Donc non, on était vraiment au haut de la vague. Quand on parlait aux athlètes, quand on parlait aux entrepreneurs qui ont investi dans le fonds, c'était le moment où tout le monde avait envie de mettre de l'argent dans la tech. Là aujourd'hui, effectivement, le marché a un peu tourné. Il y a que les meilleurs qui restent. Donc nous, on voit des très belles boîtes, on en voit moins qu'avant. Mais en tout cas, celles qu'on voit ont de la qualité. Les valorisations sont plus intéressantes pour nous. On pense en fait que c'est probablement un des meilleurs moments pour investir. L'année qui arrive là va être une année plus saine pour nous et pour les entrepreneurs qui montent des boîtes.
Mais Blaise, comment est-ce que vous vivez, vous, les turbulences des marchés financiers ?
Oui, bien sûr qu'on est à l'écoute, on observe. Après, on l'espère, juste une période. En tout cas, comme l'a dit Ilan, nous, on a la chance de voir de très belles boîtes. Il y a un impact, c'est sûr, mais aujourd'hui, on est très satisfait des boîtes dans lesquelles on a investi et on continue d'en voir des belles. Donc, aujourd'hui, c'est de faire bien sûr encore plus attention et après, il y a toujours bien évidemment de beaux deals à effectuer. En tout cas, on y travaille tous les jours.
Mais l'histoire du sport et des affaires est aussi peuplée de sportifs qui ont été malheureusement trompés par des investisseurs, voire par des proches. On gagne beaucoup d'argent jeune, il faut songer à l'avenir. Une carrière ne dure pas toujours très longtemps et les joueurs ne sont pas toujours très bien encadrés. C'est un sujet sur lequel vous étiez particulièrement vigilant ?
Oui, j'ai toujours été vigilant. Pour être honnête, j'ai eu la chance d'avoir mon papa qui a toujours été derrière moi et moi, je me souviens, hein, la première des choses qu'il m'a dit lors de mon premier contrat, c'est « achète-toi un bien immobilier et sois-en... » Enfin, je veux dire, c'est toi qui décides hein, du bien que tu veux prendre. Et voilà, ça a été le cas. Et on a toujours su faire attention. J'ai toujours eu conscience que une carrière, c'est très courte et que derrière, il y a une vie. Donc, j'ai pu entreprendre assez rapidement, tout d'abord dans l'immobilier, puis en assurance vie, et puis maintenant prendre un peu plus de risques. Je pense que c'est important de jouer la sécurité au départ, et puis par la suite, une fois qu'on a conscience que on a ce qu'il faut, on va dire, pour pouvoir vivre un certain temps, mais c'est d'essayer aussi derrière de prendre un peu de risques. C'est pas lié seulement à l'argent, mais c'est surtout aussi pour s'ouvrir un peu l'esprit, on va dire, de se dire que je fais autre chose. Dans ma vie, c'est pas toujours évident lorsqu'on arrête sa carrière de pouvoir oublier, on va dire, le football en quelque sorte et d'aller sur un autre cadre. En tout cas, c'est ce que je souhaite à tous les sportifs de haut niveau parce que je pense que mentalement, ça fait du bien aussi. C'est quelque chose qui t'anime et qui peut te permettre d'avoir un esprit ailleurs.
Ilan, une dernière question. Vous connaissez bien, vous, le monde du sport américain. Hein. Vous avez vécu, vous vivez, je crois, aussi toujours aux États-Unis. C'est un milieu naturellement plus perméable au monde du business et en particulier de la tech.
Oui, je pense que c'est beaucoup lié au modèle d'éducation dans le sens où les athlètes de NBA, de NFL, etc. aux États-Unis sont obligés d'avoir un diplôme. En fait, ils rentrent dans les universités, ils apprennent le business, ils apprennent parfois d'autres choses. Et donc, quand ils commencent à exercer leur métier d'athlète dans les grandes équipes, ils ont déjà un diplôme. Et c'est ce qui fait qu'ils sont très tôt ouverts au business, aux opportunités, très jeunes, ils comprennent. Et puis, le jour où ils ont fini leur carrière, en fait, les plus grands d'entre eux ont soit déjà monté des fonds d'investissement, soit participent dans des grandes marques ou dans des grands projets. J'espère que c'est quelque chose qui va évoluer en Europe, en France en particulier. Je pense que c'est ça dont parle Blaise aujourd'hui quand il parle d'inspirer la nouvelle génération de sportifs de haut niveau. Il y a une partie qui peut venir des athlètes comme Blaise qui ont réussi aussi dans le business, mais c'est aussi un système qui peut évoluer en France pour qu'on donne encore plus de chances de participer au business plutôt aux athlètes. Donc ça, c'est vraiment la différence que moi, j'ai compris récemment, en fait, en travaillant avec Blaise et sur Origins.
Ouh, enfin le match ! On refait le match sur RTL. Vous venez d'entendre longuement notre ami Vicente Lizarazu.
On refait aussi le match dans la story avec notre consultant. Alors nous, on n'a pas les moyens d'avoir le basque bondissant, mais on a un nordiste pédalant, Adrien Lelièvre, journaliste au service Startup des Échos. Bonjour Adrien.
Bonjour Pierrick.
Il y a une porosité de plus en plus forte entre les footballeurs et le monde des affaires ?
Alors, ça a toujours existé, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de footballeurs qui s'intéressent plus spécifiquement à la tech. Et c'est ça vraiment la nouveauté, parce que des footballeurs comme Zidane n'ont pas attendu l'émergence des startups pour faire des investissements dans le business. Là, par contre, c'est vrai qu'on voit un appétit croissant des footballeurs pour les startups et ils n'hésitent pas aujourd'hui à prendre des participations dans ces sociétés. Et entre eux, ils se passent le mot dans les vestiaires, donc ça prend de l'ampleur.
Pendant des années, en vue de leur retraite, vous le disiez, les sportifs misaient alors plutôt sur l'immobilier, sur le commerce, du moins pour ceux qui pensaient à l'avenir. Beaucoup misaient aussi sur les installations sportives. On pense à Zidane hein, pour rester dans leur domaine de compétences. Aujourd'hui, ils parlent NFT, blockchain, web 3.0 et jeux vidéo. Qu'est-ce qui les attire dans la tech?
Déjà, ce sont des enfants du numérique. Aujourd'hui, un footballeur qui commence sa carrière professionnelle à 18-19 ans, donc il est né dans les années 2000. Donc, il a grandi dans un monde où il y avait des ordinateurs, il a grandi dans un monde où il y avait des grands réseaux sociaux et assez naturellement, il s'intéresse aujourd'hui aux NFT ou Web3. Donc, je pense que ça, c'est la raison principale. Et puis, ils investissent aussi dans des startups parce qu'il y a désormais des startups dans lesquelles investir. Tout à l'heure, je parlais de Zidane. Zidane a été un immense joueur. Il était Ballon d'Or en 98. En 98, ou tout début des années 2000, vous ne pouviez pas forcément vous diversifier en investissant dans des startups françaises parce qu'il n'y avait tout simplement pas de startups françaises ou alors très, très, très peu. Aujourd'hui, il y a un écosystème qui est très, très, très vivace. Et donc, pour un footballeur qui a des revenus importants et qui veut diversifier ses investissements, la tech, c'est finalement une solution parmi d'autres qui est assez naturelle.
De lettres, deux étoiles qu'on n'oubliera jamais nos vies au DD. Dans l'histoire, ton nom gravé au jamais, tu ne cesseras de nous faire rêver. T'as tout fait, t'as tout vécu, dis-moi quelle équipe tu n'as pas vaincu au DD.
Vous allez finir par avoir un carnet d'adresses digne de Didier Deschamps. Il y a un gap générationnel d'ailleurs entre les joueurs.
C'est vrai qu'on a le sentiment que ce sont plutôt des jeunes joueurs qui commencent à investir dans le secteur, mais il n'y a pas que des jeunes non plus. Enfin, Matuidi qui lance un fonds d'investissement, c'est quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière par exemple. Et, il a créé un fonds d'investissement et il a comme LP, c'est-à-dire les personnes qui abondent son fonds, des personnes comme Olivier Giroud qui doit avoir 36 ans désormais. Donc je pense que ce n'est pas que générationnel, je pense que les footballeurs en parlent de plus en plus entre eux, se donnent des conseils. Ils sont aussi de plus en plus appuyés par des structures qui ont été créées de façon ad hoc. Par exemple, une structure comme Atlético Venture a vu le jour et conseille tous les sportifs, footballeurs mais pas que, dans leurs investissements dans la tech. Et puis peut-être, ce qui a changé aussi, c'est qu'il y a des belles réussites. Quelqu'un comme Griezmann, par exemple, a investi très 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 tôt dans Sorare, et Sorare est devenu quelques mois plus tard un succès absolument incroyable. Donc je pense que c'est un exemple qui incite d'autres footballeurs à investir aussi, parce qu'ils se disent, voilà un secteur dans lequel on peut potentiellement gagner beaucoup d'argent très très vite. Et puis plus fondamentalement, je pense qu'il y a pas mal de parallèles finalement entre le monde sportif et le monde des startups. Une startup, c'est une équipe constituée de plusieurs membres qui doivent ramer un peu dans le même sens pour obtenir des résultats. Et une équipe de basket, de handball, de football, c'est un peu la même chose. Donc en fait, ils s'identifient aussi à ces entrepreneurs qui ont un peu le culte de la performance, qui doivent se surmener pour obtenir des grands résultats et au final gagner parfois beaucoup d'argent. Donc en fait, c'est des mondes qu'on oppose parfois, mais qui ont quand même, je trouve, beaucoup de points communs.
Ouais, vous parliez hein, de Sorare, on a consacré un épisode de la story à cette success story hein, devenue l'une des licornes françaises qui a attiré de grands sportifs dans son capital, mais ça reste quand même une entreprise qui est dans le monde du sport, il y a une certaine logique. Quel est l'intérêt des autres entreprises qui ne sont pas forcément dans le domaine sportif de courtiser ces sportifs de haut niveau?
Déjà, c'est souvent un bon coup de pub quand parmi ces investisseurs, il y a des sportifs de haut niveau. Donc, je pense que ça, c'est le premier élément. Moi, le premier, quand je vais titrer mes articles, je vais dire un tel footballeur très connu a investi dans une startup. Et puis après, il y a des enjeux de société qui peuvent être plus profonds. Par exemple, une société comme Mocha Care, qui est une société qui est spécialisée dans la santé mentale, donc un sujet un peu sensible, un sujet qui a longtemps été un peu caricaturé en France parce qu'on associe à tort la santé mentale à une forme de folie. Et bien en fait, Mocha Care s'est dit, voilà, comment on peut réussir à déstigmatiser ce sujet qui est très 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 lourd et qui touche des millions de personnes en France. Et bien en fait, ils ont réussi à attirer Matuidi et Griezmann, et en fait avec ces personnes qui dépassent très très largement le monde du sport, ils espèrent aussi déstigmatiser la santé mentale.
Est-ce que ces sportifs ont quelque chose à apporter d'autre que leur nom et leur argent?
Ouais, au-delà du nom, ils apportent de l'argent, et puis ils ont des relais d'influence qui sont très 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 puissants. Vous prenez quelqu'un comme Griezmann, comme Piqué, comme N'Golo Kanté, qui fait partie aussi des investisseurs dans le fonds de Matuidi, par exemple. Ce sont des personnes qui sont suivies par des millions de personnes à travers le monde. Donc, si vous voulez, par exemple, vous développer dans des pays étrangers, bah, en fait, ça peut être hyper précieux de s'appuyer sur un footballeur qui est connu au-delà de la France, mais qui est aussi admiré au Japon, au Brésil, aux États-Unis, etc. Donc, ça apporte quand même beaucoup de choses. Et puis, je pense que les footballeurs peuvent être aussi parfois de bons conseils. Ils savent très, très bien utiliser le numérique. Ils savent que c'est des leviers d'influence qui sont très, très, très puissants. Donc, ça peut être aussi vraiment très, très utile pour les startups, bien au-delà du secteur du sport.
Merci Adrien Lelièvre, journaliste aux Échos, et merci aussi à Ilan Abeacera et Blaise Matuidi, cofondateur du fonds d'investissement Origins. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. On reviendra une dernière fois à Vivatech dans quelques jours. On a essayé de comprendre pourquoi tout le monde fantasme sur le métavers.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.